Bonjour à tous, c'est Laurent Neumann, bienvenue dans Quid Juris, le podcast hebdomadaire du Club des Juristes, en partenariat avec BFM. Quid Juris, vous le savez, c'est toute l'actualité de la semaine décryptée à travers le prisme du droit, un podcast préparé avec Elsa France, comme chaque semaine. Vous écoutez et vous regardez le 108e épisode de Quid Juris. Et cette semaine, c'est l'institution judiciaire qui est sous les feux de l'actualité. Procès en appel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire du présumé financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Marine Le Pen qui attend fiévreusement le 7 juillet prochain l'arrêt de la cour d'appel dans l'affaire des assistants des eurodéputés du FN et du RN. Arrêt qui décidera d'ailleurs de la carrière politique de Marine Le Pen. Bientôt, le procès de Rachida Dati en septembre prochain. Et bien sûr, ce projet de réforme de la justice criminelle portée par le garde des Sceaux Gérald Darmanin et qui fait couler beaucoup d'encre. Pour parler de tous ces sujets aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter un invité exceptionnel, je dois le dire. Bonjour Peyman Ghaly-Marsban.
Bonjour Monsieur Neumann.
Vous êtes le président du tribunal judiciaire de Paris depuis le 25 juin 2025 et c'est pas une mince affaire cette fonction puisque ce tribunal rend chaque année 78 000 décisions civiles et 18 000 décisions pénales. Si on ajoute les affaires de police, on
c'est
est à plus
cela.
De 100 000 jugements.
Si on ajoute la police, c'est jugement de police, c'est 25 000, donc on est à plus de 100 000 décisions par an au tribunal de Paris.
Bon, ça part bien cette conversation, mes chiffres sont déjà bons. Oui. Vous avez commencé, pour ceux qui ne vous connaissent pas, votre carrière en 1998 comme substitut à Versailles. Vous avez intégré la direction des affaires criminelles et des grâces avant d'être chargé de la communication de la cour d'appel de Paris. Vous avez ensuite passé 6 ans à la cour de cassation. Vous avez été durant 4 ans secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature avant d'être nommé premier vice-président adjoint du tribunal judiciaire de Paris. Et puis en 2017, vous avez occupé le poste prestigieux de directeur des services judiciaires jusqu'à votre nomination au tribunal judiciaire de Bobigny. Et vous voilà donc président depuis presque un an, président du tribunal judiciaire de Paris. Et il se trouve que le jour de votre cérémonie d'installation, c'était le 29 septembre dernier, c'était devant le garde des Sceaux, devant Gérald Darmanin, vous avez dressé ce qu'on appelle votre feuille de route. Et il y a un mot que j'ai retenu, vous avez dit « la justice doit mériter la confiance des pouvoirs publics et la confiance des justiciables ». Mais si vous avez employé ce mot-là, moi j'en ai immédiatement conclu qu'il y avait donc de la défiance, il y a de la défiance aujourd'hui vis-à-vis de la justice.
Tout d'abord, il faut commencer par dire que la confiance dans la justice est un des fondements même du fonctionnement de notre démocratie. Les justiciables doivent avoir confiance dans l'institution judiciaire pour accepter que les décisions de justice. Oui, aujourd'hui, je crois qu'il y a un sujet de défiance. Il y a un sujet de défiance lié à des sujets un peu structurels, comme les délais. Et puis aussi un sujet de défiance, je le crois, parce que ici ou là, il peut y avoir des discours de remise en cause de l'institution judiciaire, voire même au-delà de l'état de droit. Et ces discours, dans l'esprit public, peuvent laisser penser que l'institution judiciaire serait une forme d'empêcheur d'agir et contraindrait ceux qui voudraient faire fonctionner l'État. Et je pense qu'il ne faut pas opposer l'institution judiciaire au pouvoir et à la société. L'institution judiciaire, elle est là pour faire fonctionner l'État, faire fonctionner notre pays. Et en même temps, nous devons gagner la confiance. Je pense que c'est aussi réciproque et l'ensemble de l'institution judiciaire doit faire les efforts nécessaires par sa manière de faire, par sa manière de répondre aux besoins des justiciables pour mériter la confiance.
Eh ben, on va prendre tous ces sujets les uns après les autres. Vous avez commencé par parler des délais. C'est vrai qu'on reproche à la justice d'être lente, parfois scandaleusement lente, il faut le dire, dans certaines affaires. C'est quoi ? C'est un problème de moyens ? La justice manque de magistrats, de greffiers, d'assistants de justice ? Est-ce que d'ailleurs c'est juste un problème de moyens ?
Alors, tout d'abord, je dirais qu'il y a des délais. Il n'y a pas un délai qui serait lent. Vous avez par exemple, des dossiers pénaux en comparution immédiate qui sont jugés très vite. La personne sort de garde à vue, elle est jugée le lendemain ou le surlendemain. Ou en matière de référé, quand vous voulez une décision rapide
en
parce
urgence.
Que vous voulez une expertise en urgence, vous pouvez en quelques semaines avoir une décision. Donc, vous avez des délais qui sont des délais courts, mais vous avez effectivement, en matière civile, sur les affaires de succession, des délais qui peuvent être longs, ou en matière pénale, tout particulièrement quand vous avez des dossiers d'information judiciaire. judiciaire. Les causes, elles peuvent être liées à la procédure même. Quand vous avez une décision de première instance, un arrêt de cour d'appel et une décision de cassation, vous avez un délai qui est structurellement long.
Auquel s'ajoutent tous les recours. Je pense par exemple à des affaires dont on parle beaucoup, dont on parlera d'ailleurs au cours de notre
entretien. Et les recours sont tout à fait normaux, je dirais.
Mais je prends l'exemple de Nicolas Sarkozy, on est en 2026, les faits remontent à 2007, c'est-à-dire près de 20 ans. Donc c'est énorme pour le justiciable.
Alors, il y a des dossiers de cet ordre-là qui peuvent être extrêmement longs. Et puis ensuite, il y a une problématique de moyens. Alors, on y reviendra, je pense, sur la question des moyens. Il est certain que, malgré les efforts extrêmement importants qui ont été faits ces 10 dernières années, structurellement, il est évident qu'à un moment donné, les délais s'expliquent par le fait que les magistrats et les fonctionnaires qui sont en place ne peuvent pas rendre plus de décisions que ce qu'ils peuvent faire naturellement. Donc, avez multi-causes, en fait, par rapport à ça. Très difficile de dire qu'il y a un seul délai qui serait long ou pas. Il y a plusieurs délais et il est certain que nous devons, de manière générale, à la fois mieux travailler en organisation. Et puis, il y a une question de moyens. Il est certain que sans moyens supplémentaires, à un moment donné, on sera limité.
Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais vous savez que le garde des Sceaux nous écoute dans Quid Juris. J'ai regardé, il y a 2500 personnes qui travaillent environ au tribunal judiciaire de Paris, pas loin de 550 magistrats, je crois, oui. 400 au siège et oui. 150 à peu près au parquet.
Un peu plus avec les différents
parquets. Si vous aviez oui. Gérald Darmanin, ou pourquoi pas le ministre de l'économie en face de vous, vous lui demanderiez quoi de plus et de mieux pour le tribunal judiciaire?
Je pense qu'en tout, il faut être crédible. On doit reconnaître que depuis 10 ans, il y a eu une augmentation des moyens, comme je dirais rarement nous l'avons vu.
Notamment sur le ministère d'Éric Dupond-Moretti,
il faut le dire. Sur le ministère de la Justice, puisque depuis 2020, il y a 29% de moyens pour notre budget. Donc ça, c'est une réalité, c'est l'impôt des Français qui finance l'institution judiciaire. Donc ne pas le reconnaître, ce serait même dans le déni de ce qui ne se fait pas pour d'autres ministères. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Vous voyez, par exemple, pour le tribunal de Paris, j'ai regardé les chiffres, en 2015, il y avait 364 magistrats du siège, je dirais, dans le plan d'armement, en quelque sorte. Au mois de septembre, nous serons à 400. Donc, vous avez une évolution de quasiment 40 magistrats. C'est une réalité. Ce qui est essentiel, et je parle de l'avenir, pour l'avenir, c'est que il faut éviter ce qu'on a connu dans l'histoire de notre pays en matière judiciaire, c'est des variations en matière de moyens. Il faut que la pente d'augmentation des moyens soit
tout le temps ascendante. D'accord.
Ce qui est le pire, ce sont les coups d'accordéon. Et dans l'histoire de nos juridictions, il y a eu parfois des chutes de moyens, d'une augmentation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut véritablement éviter. Alors, et ça, je parle pour l'avenir, en vrai.
Il y a les délais, il y a les moyens. Oui. Et puis, dans votre cérémonie d'introduction, oui. dans le discours que vous aviez prononcé, il y avait aussi la question de la communication. Pour regagner la confiance, il faut que la justice se fasse comprendre, qu'elle fasse de la pédagogie. Et je me souviens, vous aviez annoncé que vous souhaitiez que les décisions de justice soient accompagnées de communiqués de presse pour expliquer les décisions, notamment dans des affaires extrêmement médiatiques, souvent polémiques, parfois politiques. Et même, vous vouliez, je crois, instaurer des porte-parole au tribunal judiciaire de Paris. Ça fait une petite année. Ça en est où? Ça va se faire? C'est déjà fait?
Alors, je voudrais repartir de la question de la confiance. Je crois que souvent, la défiance se nourrit de la méconnaissance. Nos citoyens ne savent pas forcément ce qui se passe dans nos tribunaux. Ils ne savent pas que tous les samedis, il y a des audiences de comparution immédiate qui se terminent à pas d'heure avec des magistrats et des fonctionnaires extrêmement engagés. Je parle de la matière pénale comme je pourrais parler de la matière civile. Et je pense que ce qui est essentiel dans la communication, vous parlez des affaires un peu particulières, vous les avez citées, mais il y a aussi ce qui se fait en matière d'affaires familiales, ce que l'on fait en matière de médiation, ce que l'on essaye de faire pour l'accueil des victimes. Et je crois que déjà rétablir la confiance, et c'est pour ça que j'ai répondu favorablement à votre invitation, c'est aussi expliquer ce que nous faisons, c'est ouvrir les portes du tribunal pour que les citoyens, à travers la presse, à travers celles et ceux qui les représentent, sachent très exactement ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons n'est pas forcément bien, il faut savoir évoluer sur certaines choses. Mais déjà, voir le travail qui est fait, je vous assure, il y a dans la communauté judiciaire des 2500 des gens extrêmement engagés qui font fonctionner la justice à Paris et en France.
Mais souvent, on parle de la justice à la faveur d'affaires extrêmement médiatisées. Et je vais prendre un exemple. Lorsque la décision de première instance sur Nicolas Sarkozy et l'affaire libyenne tombe, tombe. La décision fait 400 pages. Elle est commentée quasiment dans la seconde sur tous les plateaux de télévision, à la radio, partout. Et pourtant, personne n'a pris le temps de lire ces 400 pages. Est-ce que là, la justice n'a pas quelque chose à faire pour faire justement la pédagogie de ces décisions dont on sait qu'elles seront terriblement commentées?
Alors, évidemment, je ne parlerai pas du procès qui est actuellement en cours, mais je vais répondre à la question de la communication. Mais oui, vous avez raison. Vous avez raison. Un jugement est rendu, un jugement qui fait 400 pages, qui est juridiquement motivé, qu'il faut lire, qu'il faut comprendre. Et il est évident que dans le temps de la presse, pour les journalistes, mais aussi pour n'importe quel citoyen, la lecture des 400 pages est un petit peu âpre. Et nous devons être en mesure d'avancer sur la pédagogie des décisions. Et c'est pour cela que j'ai pu évoquer le fait, et nous sommes totalement engagés à Paris sur ce point, sur la question des communiqués de presse.
J'ai regardé, là, au mois d'avril, vous en avez publié 4, voilà. Sur 4 décisions différentes.
Exactement, en matière civile comme en matière pénale. Et depuis le mois de septembre, date que vous évoquiez, nous sommes à peu près 14-15 communiqués de presse qui permettent, indépendamment de la lecture des décisions, et les journalistes le font, les professionnels le font, mais d'avoir en 2-3 pages, eh bien, la synthèse, la présentation qui ensuite permet d'être une base de travail. Sur la question des porte-paroles, je crois aussi que nous devons, nous, magistrats du siège, parce que les magistrats du parquet, depuis très longtemps, ont, je dirais, appris à communiquer.
Oui, parce que les magistrats du siège, c'est pas leur usage.
Ce n'est pas leur habitude de communiquer. Nous devons être sur la réserve, et c'est indispensable, et notre parole doit être rare. Le parquet, je dirais, sait faire, il y a qu'à se souvenir des prises de parole de François Molins. Chacun les a en tête.
Quand il était à la tête du parquet.
Quand il était à la tête du parquet de Paris, qui était en charge du terrorisme. Et les procureurs le font aisément. Mais je pense que les magistrats du siège, président ou ceux qui le représentent, doivent pouvoir, encore une fois, expliquer les décisions. Ce que j'ai appelé la pédagogie de la décision. Il ne s'agit pas de dire le juge a eu raison de prendre telle décision, il s'agit de dire voilà quelle est la décision, voilà quelle est la motivation, et voilà pourquoi elle a été prise, pour répondre à un besoin qui est un besoin, je dirais, les Français sont passionnés par la justice, sont passionnés par les décisions de justice, sont passionnés par toutes ces affaires judiciaires. Et donc il faut pouvoir répondre à ce besoin. Il y a aujourd'hui des chaînes d'information continue, il y a aujourd'hui de la presse en ligne, il y a un besoin d'information, et il est indispensable que nous soyons au rendez-vous.
Alors, il y avait un autre sujet que je voulais évoquer avec vous, évidemment, c'est votre souhait de travailler sur les mécanismes de régulation carcérale. Je sais que c'est un sujet qui est cher à la contrôleure générale des lieux de privation, Dominique Simoneau. Le taux actuel de suroccupation des établissements pénitentiaires en France dépasse les 139%. C'est 171% dans les seules maisons d'arrêt. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut moins condamner à de la prison? Est-ce qu'il faut inventer des peines alternatives au risque d'ailleurs d'être qualifié de laxiste? C'est quoi la solution? Ou construire des places peut-être?
Alors, il y a le constat que vous faites qui d'ailleurs répond à l'argument qu'on entend parfois sur le fait que la justice serait laxiste. J'invite vraiment toutes celles et ceux qui pensent que la justice fonctionne de telle ou telle manière à venir voir comment nous travaillons et quelles sont nos décisions.
J'ajoute qu'à la fin du mois d'avril, on a à nouveau battu un record, oui. Plus de 88 000 prisonniers détenus dans les prisons françaises. On n'a jamais autant incarcéré dans ce pays.
Alors, il se trouve que j'ai fait partie d'un groupe de travail qui avait été mis en place par Didier Migaud, avec des magistrats et des professionnels. Et nous avons rendu un rapport que nous avons rendu au ministre de la Justice. Un constat a été fait. Depuis maintenant plusieurs années, la durée des peines a augmenté. Il n'y a pas forcément plus d'écrous, mais la durée des peines est plus importante qu'il y a maintenant une vingtaine d'années. Ça, c'est le premier point. Deuxième point...
Donc, il y a plus de sévérité.
Il y a plus de sévérité. Alors après, on peut les expliquer par des effets de seuil. Peut-être certains ont intégré le fait qu'il y avait des seuils d'aménagement de peine. En tout état de cause, quel que soit le motif, il y a une augmentation. Il y a plusieurs manières, si vous voulez, de répondre à cette problématique. D'abord, par les décisions qui sont rendues, par la personnalisation des peines, où il faut tenir compte de la situation d'une personne, et l'incarcération doit rester, à mon sens, un recours qui doit être le dernier recours. Il faut réfléchir aux autres possibilités avant de plonger quelqu'un dans le monde de l'incarcération. Je ne vous parle pas d'une affaire criminelle, je ne parle pas d'un fait d'une extrême gravité qui, dès la première commission, nécessiterait évidemment une incarcération. Mais dans un parcours pénal, je ne crois pas que la prison doit être le premier recours. Ça, c'est le premier point. Second point, nous avons écrit dans ce rapport que nous étions favorables, et je le suis, sur un dispositif de régulation carcérale.
Alors, ça tombe bien que vous me parliez de ça, parce qu'il y a quelques jours, nos confrères de RTL ont mis la main sur une note de la Direction interrégionale des services pénitentiaires, où il est question de régulation carcérale. C'est-à-dire, en gros, faire sortir des détenus qui approchent de la fin de leur peine, soit avec des réductions de peine, soit avec des procédures d'aménagement sous bracelet, des libérations sous contrainte. Ça peut être une bonne solution ?
Je pense qu'aujourd'hui, c'est la seule solution. Alors, il faut construire des places de prison, il faut aussi adapter les places de prison à la dangerosité des personnes. Des personnes n'ont pas besoin d'être, gardées de la même manière selon leur dangerosité. Vous avez derrière la formule régulation carcérale, ce qui peut se faire aujourd'hui et ce qui pourrait se faire avec des dispositions législatives. Ce qui peut se faire aujourd'hui, c'est quelque chose que nous avions mis en œuvre au tribunal de Bobigny et que nous avons mis en œuvre au tribunal de Paris. Ce sont des conventions par lesquelles on examine avec anticipation les dispositifs de réduction de peine. Alors, on les appelle des dispositifs de régulation carcérale. Je pense que la note dont vous faites état va dans ce sens.
Qui reprenait d'ailleurs les orientations de la direction générale de l'administration pénitentiaire. D'ailleurs, on est entre nous, mais j'ai été un petit peu étonné de voir cette note sortir, parce qu'on imagine mal que le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, n'ait pas lu le contenu de cette note. Or, il s'était toujours opposé à ce principe de régulation carcérale.
Alors, le garde des Sceaux a, je crois, début janvier, à l'occasion des vœux du Conseil national du barreau, évoquait le fait qu'il était favorable à un mécanisme de régulation carcérale qui allait au-delà de ça. Et je pense que c'est vers quoi il faut aller. Puisque nous sommes partis de l'idée, le constat, que les peines sont plus longues, eh bien, réduisons à un mois ou deux mois ce mécanisme-là. Il faudrait des effets de seuil, où à un moment donné, on pourrait considérer que la détention, je dirais, n'apporte rien d'autre que de la désocialisation, et qu'il faut alors prévoir des dispositifs de remise en liberté. Alors évidemment, il y aurait des effets d'exclusion. Dans certaines infractions, il ne faudrait pas le faire. Il faut regarder les choses avec soin. Mais je pense que ce mécanisme qui, à mon sens, nécessite une loi, c'est la seule disposition aujourd'hui. Et encore une fois, je pense qu'il faut rassurer nos concitoyens. Il y aurait des mécanismes d'exclusion. Il ne s'agit pas que les personnes les plus dangereuses soient concernées par ces mécanismes-là.
Mais vous savez ce que politiquement va vous répondre. Certains, notamment à droite de l'échiquier politique, vont vous dire, la justice remet en liberté par anticipation des délinquants dont la place est derrière les barreaux. Donc on va dire encore une fois que la justice est laxiste.
C'est pour ça que moi, dans les débats, je ne suis pas favorable à faire peser sur le juge la contrainte de la régulation carcérale. Parce que quand vous jugez une affaire, que vous avez...
Qui doit en prendre l'initiative ?
Je vais au bout de ma démonstration. Vous avez un violent conjugal qui comparaît en comparution immédiate pour une deuxième, une troisième affaire. Et si vous le remettez en liberté, il y a un risque de recommission des faits. Dans ces cas-là, moi, je ne souhaite pas qu'on mette sur l'épaule des juges la responsabilité d'une remise en liberté, parce que l'incarcération, elle est rendue indispensable. Mais je dirais, c'est l'État, c'est la société qui constate que il y a peut-être une répression plus forte, qu'il n'y a pas encore suffisamment de places de prison, et que la représentation nationale décide qu'on met en place des mécanismes.
Mais qui d'autre, si c'est ça n'est pas le juge ?
C'est le Parlement. C'est le Parlement par un mécanisme de régulation carcérale.
Donc par une loi ?
C'est une loi, bien sûr. Il y a des propositions de loi, d'ailleurs, qui ont été présentées. Alors après, vous avez différents mécanismes, mais vous pourriez considérer que vous avez un seuil de tolérance, un seuil au-delà duquel vous devez permettre des remises en liberté anticipées. Encore une fois, il s'agit de fin de peine. Il s'agit de réduire d'un mois ou de deux mois. Mais vous avez des effets systémiques. Et je pense qu'aujourd'hui, nous l'avons écrit. J'étais avec le premier président de la Cour d'appel de Versailles, notamment la procureure de Nîmes et d'autres, le directeur de la Maison d'arrêt de la Santé, notamment. Nous étions plusieurs professionnels à aller dans ce sens. Et je n'ai pas changé d'avis sur ce point.
Alors, après cette nécessaire pédagogie, vous le savez, c'est aussi la vocation de Quid Juris. On parle d'actualité, mais ça, c'est la deuxième partie de Quid Juris.
Quid Juris, Laurent Neumann reçoit Peyman Galé-Marsban, le président du tribunal judiciaire de Paris.
Peyman Galé-Marsban, président du tribunal judiciaire, on a fait la pédagogie. Je voudrais qu'on parle un petit peu de l'actualité. Et l'actualité, c'est d'abord cette réforme de la justice criminelle. Tous les fidèles de Coup de Juriste s'en souviennent. Il était à ce micro. J'avais invité le bâtonnier de Paris, Louis de Gauss, un bâtonnier qui était vent debout contre cette réforme, qui avait d'ailleurs appelé à une grève reconductible des avocats. Vous, le président du tribunal judiciaire de Paris, qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ? On va parler du contenu de la réforme, mais d'abord à propos de cette grève. C'est pas banal des avocats qui se mettent tous en grève ?
Alors, je sais pas une formule de style, mais j'ai des très bonnes relations avec le bâtonnier de Paris, avec lequel nous échangeons, et j'ai une obligation d'entente. Je veux dire, même dans les situations de grève fortes, nous devons échanger, c'est un principe de base de fonctionnement. Moi, j'ai pris la parole publiquement et la grève, la défense massive est quelque chose qui est mis en œuvre par les avocats. Attention à ce que ça ne détériore pas la relation magistrat-avocat.
Bah, je ne me trompe pas, je ne parle pas à votre place terminées. Si je dis que vous étiez en colère. Vous étiez en colère de voir des audiences désorganisées, des audiences confinées à pas d'heure.
Si vous voulez, j'étais un samedi soir, une audience s'est terminée à 4h50. Le samedi d'après, je suis resté jusqu'à avec la formation jusqu'à 3h30 du matin. Je me suis posé la question du sens des choses. Après, la grève, elle se fait, et j'entends l'expression, mais peut-être qu'au-delà de cette expression de la grève, il y a aussi la nécessité de travailler. Nous sommes dans un État démocratique, il y a un ministre, il y a un Parlement, il y a des commissions des lois, et on va en parler certainement. Mais ce qu'il faut, c'est travailler sur les projets.
Bah, on va parler du fond,
moi,
si vous voulez bien.
Je suis avec les avocats, je défends la place des avocats totalement, mais attention à ce que la grève ne détériore pas la relation. Et moi, je suis garant des collègues, magistrats, fonctionnaires, greffiers, et je dirais même avocats, quand ça se termine à 5 heures du matin et que vous avez eu, pour un dossier, 5 ou 6 prises de parole, c'est vrai qu'à un moment donné, ça peut poser un petit sujet.
Alors, je voudrais qu'on parle du fond, du fond de la réforme. Ce texte prévoit l'instauration d'une procédure de plaidé coupable en matière criminelle, à la condition, évidemment, qu'elle soit acceptée par l'ensemble des parties. Ça existe déjà au civil et au pénal pour certains délits. La nouveauté, c'est de l'étendre en matière criminelle. C'est ce qu'on appelle une procédure de reconnaissance de culpabilité. Comment ça marche, en gros, à la fin de l'enquête toutes les parties se mettent d'accord, à commencer par les victimes elles-mêmes, qui acceptent le prononcé de la peine, et le quantum de la peine, c'est ça l'idée ?
Alors, le projet de loi...
D'ailleurs, est-ce que vous, à titre personnel, vous y êtes favorable ?
Moi, sur ce point, je veux dire deux choses. Le projet a le mérite, au moins, de traiter une situation qui est une situation, aujourd'hui, qui est peut-être la plus grave dans toutes les questions concernant l'institution judiciaire. Cette formule qui a été utilisée, c'est le mur des assises. Plusieurs milliers de dossiers qui ne sont pas jugés, des victimes qui attendent leur jugement. Je ne parle pas de victimes d'un vol, je parle de victimes de viol, de victimes de crimes. Et demain, le risque que dans des dossiers, des personnes soient remises en liberté, parmi des personnes qui pourraient être responsables si elles sont condamnées des faits les plus graves. Donc, il faut traiter ce sujet.
Faute d'avoir respecté les délais.
Faute de pouvoir respecter les délais. Vous me posiez la question, monsieur le bâtonnier, qu'est-ce que je lui dis ? Mais trouvons des solutions. Mettons-nous autour d'une table et trouvons une solution. Donc, le projet de loi a un mérite, c'est qu'il pose ce sujet et propose une solution. Alors, cette solution, aujourd'hui, moi, je me rends compte d'une chose, c'est qu'au final, si on voulait être extrêmement pragmatique, je ne suis pas certain, d'ailleurs, que le périmètre des dossiers qui va être concerné par ce projet de... c'est pas la CRPC criminelle, c'est une procédure sur reconnaissance. Le Sénat a réduit le champ des procédures concernées par, effectivement, l'homologation par une cour.
Ce ne sont des affaires où il n'y a qu'une seule victime.
Une seule victime.
Des affaires où il n'y a qu'un seul auteur.
Avec l'exclusion de crimes sur mineurs de 15 ans. Et donc, c'est une proposition qui est faite par le ministère public, avec l'accord, évidemment, de tous, avec un délai de rétractation de 15 jours, et ensuite, une cour qui valide.
Louis de Gauss disait à ce micro, sur les 6000 affaires en souffrance, ça ne concernerait, dans le meilleur des cas, que 10% de ces affaires.
Alors, je n'ai pas le chiffre, mais en réalité, ce sera très peu. Donc en réalité, je pense qu'il faut réformer la procédure criminelle. Cette possibilité qui est ouverte est une possibilité, et je pense qu'elle a le mérite d'exister. Moi, je pense qu'on pourrait avancer sur... En fait, je vais appeler ça de la proportionnalité procédurale. Si vous voulez, les procédures d'assises, elles sont marquées par la procédure d'oralité. C'est-à-dire que les juges ne peuvent pas considérer comme acquis certaines pièces de la procédure, et tout doit être redit oralement, soit parce qu'un témoin va venir, soit parce qu'un expert va venir, soit parce que le président de la cour va donner lecture d'un procès-verbal. Ça se justifiait totalement quand vous aviez des jurés. La question est un peu différente quand vous avez des magistrats professionnels, quand vous sortez d'un an ou de 18 mois ou de 2 ans d'information judiciaire. Toutes les parties savent ce qu'il y a dans le dossier. Et donc,
non, mais
quand
ça, ce que vous dites est parfaitement
quand
dit,
les faits sont
mais
reconnus,
c'est bien pour réduire la durée de l'audience.
Alors,
mais l'important, c'est peut-être de réduire le délai entre la fin de l'instruction et l'audience elle-même. C'est là où il y a du temps à gagner.
Réduire le délai de l'audience, ce n'est pas bâcler un procès.
Certains disent justice expéditive.
Non, mais encore une fois, je pense que chacun peut le comprendre. Si vous avez des faits qui sont complètement reconnus, il n'y a pas, je dirais, un élément sur lequel il y a une contestation. Faut-il faire revenir le responsable de l'enquête ? Faut-il donner lecture de l'ensemble des procès-verbaux ? Faut-il demander à toutes celles et ceux qui peuvent être témoins de venir ? On comprend bien qu'on peut alors se concentrer sur la parole de la victime, se concentrer sur la parole de l'auteur, pour que l'audience ait à ce moment-là, je dirais, sa vitalité, qu'elle soit ce moment de reconstruction, et puis redonner aussi la place au juge, qui pourra ensuite décider de la peine. Donc, je pense qu'il faut profiter de ce projet, et la navette pourrait peut-être avancer sur ce point, pour aller vers des procès qui seraient, quand je dis plus courts, ce n'est pas une manière de bâcler, c'est une manière de se concentrer sur l'essentiel.
Donc ceux qui disent que c'est attentatoire potentiellement au droit de la défense, voire au droit de la victime, ceux-là se trompent ?
Si vous voulez, je vois mal l'hypothèse dans laquelle une personne va contester les faits durant toute la procédure, et puis au dernier moment va dire « Ah tiens, au fait, je vais peut-être reconnaître les faits parce que je vais avoir ma peine réduite ». Ça ne marche pas comme ça. Et je pense même qu'un ministère public, qu'un juge d'instruction n'acceptera pas d'aller vers cette situation-là. Donc pour moi...
Et il n'y a pas un risque que ça nuise au sens de la peine ?
Si vous voulez, moi je souhaite un dispositif dans lequel on donne toute sa capacité au juge. Le faire, c'est penser un procès criminel qui peut-être se penchera sur la peine et moins sur l'évocation des faits qui est reconnue. Donc, ce dispositif du projet, il a le mérite d'exister. Je pense qu'il existe, mais il peut être aussi le point de départ à des éléments supplémentaires. La navette, elle est là pour ça. Et franchement, je pense que le pire serait que rien ne se fasse. Rien ne se fasse. On ne peut pas rester dans le statu quo. Je pourrais vous donner encore d'autres éléments sur la mobilisation que cela représente en termes de moyens. Voilà.
Mais on a bien compris votre position sur ce projet. L'autre actualité, évidemment, celle-là, elle est judiciaire pour le coup, c'est le procès en appel de Nicolas Sarkozy. Je vous rassure,
je ne vais pas
vous demander de commenter le procès en appel qui est en cours. En revanche, bon, je rappelle ici qu'il a été condamné en première instance à 5 ans de prison ferme avec exécution provisoire, que Nicolas Sarkozy est toujours présumé innocent au moment où on se parle. En revanche, je me souviens que vous aviez été très choqué par les propos de l'ancien président de la République qui avait parlé de haine de la part des magistrats. Et moi, je note qu'en fait, il est de plus en plus fréquent que des responsables politiques, quand ils ont maille à partir avec la justice, se permettent d'attaquer la justice, l'institution, les décisions et même les juges intuitu personae. Ça, c'est nouveau.
Alors, vous l'avez précisé, je n'évoquerai évidemment pas ce procès, et je n'évoquerai pas non plus la personne que vous avez évoquée. Et de manière plus générale, oui, tout propos qui est un propos de remise en cause de la personne même du juge, dans les conditions que vous décrivez par le mot « haine », est quelque chose qui dégrade la relation de confiance. Parce que quand ces propos sont en plus tenus par des personnes qui ont du poids, qui peuvent être appréciées parce qu'ils ont exercé de très hautes responsabilités, ça crée dans l'esprit public l'idée que peut-être que le juge, effectivement, il est haineux, que le juge en veut à telle ou telle personne.
Qu'il est politisé.
Et ce type de propos est quelque chose qui justement, cultive cet élément de défiance. Il faut que vous m'entendiez bien. Si demain, un magistrat contrevient à sa déontologie, il faut qu'il soit sanctionné. Je ne suis pas en train de vous dire que nous sommes exempts de tout reproche.
Et certains le sont, d'ailleurs.
Et dans ce cas, il faut que les processus disciplinaires... J'ai été secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature, directeur des services judiciaires. Je connais cette matière, qui est la matière disciplinaire. Mais, je dirais, la remise en cause... et encore une fois, je le dis de manière générale, sans fondement, de la personne même du juge est quelque chose
en fait, ce que vous
qui
condamnez,
ne fait pas
si
du
je
bien à notre
bien,
démocratie. C'est que, et on peut critiquer les décisions de justice.
C'est d'attaquer l'institution, d'attaquer les juges nominativement, mais en revanche, vous me confirmez qu'on a le droit de critiquer les décisions
sûr,
de justice.
Et heureusement, dans une démocratie, vous pouvez critiquer les décisions de justice. D'ailleurs, vous savez, la première critique, c'est la critique des professeurs de droit sur des motivations en matière de droit civil. Et la critique... elle est institutionnelle. C'est ce qu'on appelle la doctrine qui va être parfois favorable à une motivation et parfois défavorable. Et on peut aussi critiquer la sévérité d'une décision. On peut critiquer une décision pénale. Sur ce point, ce serait d'ailleurs, je dirais, contraire même aux principes démocratiques de notre fonctionnement institutionnel que de dire surtout aucune critique. Non. La question, c'est la mesure, ce qu'on appelle, vous savez, le discrédit ou l'opprobre jeté sur une décision ou sur un juge. Ça, ce n'est pas acceptable.
Après les critiques qui ont suivi la décision en première instance dans le procès Nicolas Sarkozy, la magistrate a été victime de menaces de mort. Je crois qu'elle avait d'ailleurs été placée sous protection. Vous avez de ces nouvelles ? Elle a pu reprendre...
Je ne vais pas évoquer ces sujets parce que je veux vraiment qu'en aucune manière, ce que je pourrais dire ici puisse être un élément perçu.
Non, mais
perçu.
C'est un sujet, le continuum entre les mots qui sont
mais
prononcés
vous comprenez bien que
et la mise en danger des magistrats.
Vous comprenez bien, pardon, ce n'est pas une absence de réponse, mais c'est une prudence liée à un procès qui est en cours. Je ne voudrais vraiment pas qu'on puisse penser que mes propos viennent à un moment... J'ai trop de respect pour la procédure devant la cour d'appel. Après, oui, ce que vous dites est juste, il y a eu une mesure de protection. Voilà, mais je n'en dis pas plus.
Ce qui est quand même grave que des magistrats soient mis en danger.
Je pense que tout personnel public, qu'il soit magistrat ou pas, qui est placé sous protection parce qu'il pourrait y avoir un risque et quelque chose qui n'est pas acceptable. Que ce soit magistrat ou pas, d'ailleurs.
Les critiques qu'on a entendues après le procès Sarkozy, on avait entendu le même type de critique après le procès Le Pen. Il se trouve que Marine Le Pen attend l'arrêt d'appel pour le 7 juillet prochain. Juste une question de procédure. Il se trouve que dans les deux cas, la cour d'appel a accéléré d'une certaine manière l'audiencement de l'appel de Nicolas Sarkozy et de Marine Le Pen sur le plan procédural et à cause de toutes les implications politiques, peut-être à cause de ces deux justiciables, ça vous paraît logique que ces délais aient été modifiés ?
Ça me paraît totalement logique. Il s'agit de prendre en compte ce qu'on appelle la bonne administration de la justice. On ne peut pas faire fi de certaines réalités. Et d'ailleurs, on pourrait le faire d'ailleurs dans d'autres situations. Alors, on pourrait dire oui, on accélère pour certains dossiers ou pas, mais je pense que l'institution judiciaire doit prendre aussi en compte la réalité de ce que peuvent représenter certaines personnes dans le paysage institutionnel et politique. Et je pense que c'est prendre en compte un motif de bonne administration de la justice, et donc je trouve ça tout à fait normal et logique.
Oui. Encore un mot d'actualité, l'été dernier, je me souviens, vous veniez à peine d'être nommé, vous aviez rappelé Rachida Dati, ex-ministre de la Culture et ancienne garde des Sceaux, vous lui aviez rappelé qu'elle ne pouvait pas s'en prendre publiquement aux juges. Elle les avait accusés, je cite, de refuser de faire leur travail conformément au code de procédure pénale. Je ferme les guillemets. Il se trouve que son procès va avoir lieu à la rentrée, en septembre prochain, sans rentrer encore une fois dans le cœur du dossier, comment, en tant que président du tribunal, vous préparez à ce procès dont tout le monde sait qu'il sera et médiatique et sans doute très politique.
Oui. Alors, je n'avais pas répondu à Madame Dati, j'avais rappelé les principes de fonctionnement judiciaire de notre pays dans les termes que vous avez rappelés. Très concrètement, le président que je suis désigne des magistrats qui vont composer cette formation et En quelque sorte, moi, je ne rentre pas plus dans le dossier. Les juges sont totalement indépendants. Et ensuite, la collégialité va préparer le dossier et ils se mettent en ordre de marche. J'ai exercé ces fonctions il y a maintenant plus de 10 ans. Le président doit garantir, si vous voulez, la bonne administration de la justice, peut-être faire en sorte que d'un point de vue matériel, les choses puissent se dérouler de manière convenable.
Vous avez tiré les leçons de ce qui s'est passé au moment du procès de Nicolas Sarkozy. Je pense notamment aux commentaires qui ont suivi la décision. Est-ce que cette fois-ci, pour la décision qui sera rendue, quelques mois après, ouais, est-ce que vous allez plus l'accompagner que cela
alors,
n'a été fait ?
Je parlerai pas spécifiquement de ce procès, mais je dirais que de manière générale, nous tirons les enseignements de ce que nous devons être capables d'expliquer notre action. Quand je dis expliquer notre action, c'est pas mon action, puisque les décisions rendues sont rendues par des juges indépendants.
Et
d'ailleurs, je voudrais juste donner une précision, parce que peut-être que les citoyens ne le savent pas, mais quand une chambre du tribunal correctionnel rend une décision, le président ne la connaît pas. Moi, je découvre, et c'est normal.
Parce que, en même temps que nous.
Mais bien sûr, ça s'appelle le secret du délibéré. Et le secret du délibéré s'impose au président. Donc moi, je découvre de manière publique, comme tout le monde, les décisions. Oui, nous avons tiré toutes les conséquences. Il y a certaines décisions qui sont plus regardées que d'autres. Et il est légitime, normal, de pouvoir expliquer et faire de la pédagogie et donc de mettre en œuvre ce processus de communiqué de presse qui aujourd'hui se généralise, qui nécessite d'ailleurs que les magistrats qui rendent des décisions apprennent à rédiger ces communiqués. Puisque comme vous l'avez compris, moi je ne connais pas la décision avant. Et si je dois lire les 400 pages pour faire le communiqué, il va me falloir un peu de temps. Donc ce sont les magistrats qui rendent la décision, qui doivent s'approprier la capacité et je
à
dirais
l'expliquer.
À l'expliquer et à faire le communiqué. C'est vraiment un changement de pratique et un changement de culture chez les juges. C'est un travail important qui se fait petit à petit.
C'est important tout ce qu'on a dit sur l'état de droit, mais je ne veux pas finir cet entretien sans vous poser une petite question personnelle. Je crois savoir que votre livre de chevet, c'est le roman de Jean-Denis Bredin, intitulé « Un coupable ». C'est l'histoire tragique d'une erreur judiciaire. Pourquoi ce livre ? Parce qu'il se trouve que je me suis laissé dire aussi que vous aviez été marqué dans vos jeunes années de magistrat, ou en tout cas d'étudiant peut-être, par une affaire où deux gardés à vue s'étaient suicidés et que vous en avez gardé quelque chose de très fort.
En fait, alors, vous parlez de ce personnage, Ali-François Caillou, dans le livre de Jean-Denis Bredin, un coupable qui est pris dans une manifestation. On lui reproche d'avoir frappé un policier avec un tesson de bouteille. Et puis, en fait, il est innocent, mais il est condamné. Il se défend pas bien. Et puis, dans une justice rapide, il est condamné et il se suicide. Et oui, quand j'étais substitut à Versailles, et alors j'étais substitut placé, donc j'exerçais à Chartres et à Versailles, j'ai eu au cours du même semestre 2 suicides en garde à vue. 2 suicides, alors c'était dans des affaires criminelles, de viol sur enfants, sur mineurs de 15 ans. Les faits avaient été reconnus dans les deux cas pour sa conscience. C'est quelque chose d'important, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment... oui, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Évidemment, la situation des personnes, la situation des familles. Mais par rapport à la liberté, j'en ai retenu un enseignement, c'est d'être capable à chaque moment de justifier pourquoi on prive quelqu'un de sa liberté.
Est-ce que vous diriez qu'il vaut mieux un coupable dehors qu'un innocent en prison ?
Il faut imaginer si cela nous concernait. Je pense que si l'on pense que la justice peut concerner n'importe qui et que personne n'est exclu de l'application de la justice, je crois que oui. Il faut imaginer le caractère insupportable d'une personne innocente en détention. Et le travail du juge est quelque chose d'épouvantablement difficile par rapport à cette appréhension des décisions, par rapport à la détermination d'un dossier, d'une culpabilité. On parle de la justice pénale, on pourrait parler de la justice civile. C'est pour ça que il faut véritablement que... Moi, mon rôle, c'est d'expliquer ce que font les magistrats et les fonctionnaires. Ce que font les magistrats dans la difficulté qui est la leur. Ils essayent de faire leur travail avec vraiment beaucoup d'implication, beaucoup de rigueur. Et on a une belle institution judiciaire.
C'est ce que vous êtes venu faire aujourd'hui dans beaucoup de juristes, Peyman Gallet-Marsban.
J'ai essayé un petit peu quand même.
Ben voilà, merci en tout cas de vous être prêté au jeu, de nous avoir éclairé sur tous ces sujets.
Merci à vous.
Je vous rappelle que ce podcast Quid Juris est disponible évidemment sur la plateforme de notre partenaire BFM, sur le site évidemment du Club des Juristes et sur toutes les plateformes de streaming. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le 109e épisode de Quid Juris. Bonne semaine à tous.